Dans sa chambre d'hôtel, il alluma sa pipe avec la gravité qu'il apportait à cet acte et, entouré de nuages de fumée, il étudia les conclusions que l'on pouvait tirer du dossier MB, ou, pour mieux dire, du dossier Maxime Bermond, alias Arsène Lupin. À 8 heures, il envoyait à Ganimard ce pneumatique. « Je passerai sans doute ce matin rue Pergolèse et vous confierai une personne dont la capture est de la plus haute importance. En tout cas, soyez chez vous cette nuit et demain mercredi jusqu'à midi et arrangez-vous pour avoir une trentaine d'hommes à votre disposition. » Puis il choisit sur le boulevard un fiacre automobile dont le chauffeur lui plut par sa bonne figure réjouie et peu intelligente et se fit conduire sur la place Malesherbes, 50 pas plus loin que l'hôtel d'Estanges. « Mon garçon, fermez votre voiture, » dit-il au mécanicien. « Relevez le col de votre fourrure, car le vent est froid, et attendez patiemment. Dans une heure et demie, vous mettrez votre moteur en marche. Dès que je reviendrai, en route pour la rue Pergolèse. » Au moment de franchir le seuil de l'hôtel, il eut une dernière hésitation. N'était-ce pas une faute de s'occuper ainsi de la dame blonde tandis que Lupin achevait ses préparatifs de départ? Et n'aurait-il pas mieux fait, à l'aide de la liste des immeubles, de chercher tout d'abord le domicile de son adversaire?
« Bon, se dit-il, quand la dame blonde sera ma prisonnière, je serai maître de la situation. »
Et il sonna. Monsieur d'Estanges se trouvait déjà dans la bibliothèque. Ils travaillèrent un moment et Sholmès cherchait un prétexte pour monter jusqu'à la chambre de Clotilde lorsque la jeune fille entra, dit bonjour à son père, s'assit dans le petit salon et se mit à écrire. De sa place, Sholmès la voyait penchée sur la table et qui, de temps à autre, méditait, la plume en l'air et le visage pensif. Il attendit. Puis, prenant un volume, il dit à Monsieur d'Estanges
« Voici justement un livre que Mademoiselle d'Estanges m'a prié de lui apporter dès que je mettrai la main dessus. »
Il se rendit dans le petit salon et se posta devant Clotilde de façon à ce que son père ne pût l'apercevoir. Et il prononça
« Je suis Monsieur Stickman, le nouveau secrétaire de Monsieur d'Estanges. »
« Ah ? » fit-elle sans se déranger. « Mon père a donc changé de secrétaire ?»«
Oui, mademoiselle, et je désirerais vous parler. »«
Veuillez vous asseoir, monsieur. J'ai fini. »
Elle ajouta quelques mots à sa lettre, la signa, cacheta l'enveloppe, repoussa ses papiers, appuya sur la sonnerie d'un téléphone, obtint la communication avec sa couturière, pria celle-ci de hâter l'achèvement d'un manteau de voyage dont elle avait un besoin urgent, et enfin, se tournant vers Sholmès,
« Je suis à vous, monsieur. Mais notre conversation ne peut-elle avoir lieu devant mon père ?»«
Non, mademoiselle, et je vous supplierai même de ne pas hausser la voix. Il est préférable que monsieur d'Estanges ne nous entende point. »
« Pour qui est-ce préférable ?»«
Pour vous, mademoiselle. »
« Je n'admets pas de conversation que mon père ne puisse entendre. »«
Il faut pourtant bien que vous admettiez celle-ci. »
Ils se levèrent, l'un et l'autre, les yeux croisés. Et elle dit
« Parlez, monsieur. »
Toujours debout, il commença.
« Vous me pardonnerez si je me trompe sur certains points secondaires. Ce que je garantis, c'est l'exactitude générale des incidents que j'expose. »
Pas de phrases, je vous en prie, des faits.
À cette interruption, lancée brusquement, il sentit que la jeune femme était sur ses gardes. Et il reprit
« Soit, j'irai droit au but. Donc, il y a 5 ans, monsieur votre père a eu l'occasion de rencontrer un monsieur Maxime Bermond, lequel s'est présenté à lui comme entrepreneur ou architecte, je ne saurais préciser. Toujours est-il que M. d'Estanges s'est pris d'affection pour ce jeune homme, et comme l'état de sa santé ne lui permettait plus de s'occuper de ses affaires, il confia à M. Bermond l'exécution de quelques commandes qu'il avait acceptées de la part d'anciens clients et qui semblaient en rapport avec les aptitudes de son collaborateur.
Herlock s'arrêta. Il lui parut que la pâleur de la jeune fille s'était accentuée. Ce fut pourtant avec le plus grand calme qu'elle prononça
« Je ne connais pas les faits dont vous m'entretenez, monsieur. Et surtout, je ne vois pas en quoi ils peuvent m'intéresser. »
« En ceci, mademoiselle, c'est que monsieur Maxime Bermond s'appelle de son vrai nom, vous le savez aussi bien que moi, Arsène Lupin. »
Elle éclata de rire.
« Pas possible, Arsène Lupin, monsieur Bermond. Monsieur Maxime Bermond s'appelle Arsène Lupin. »
Comme j'ai l'honneur de vous le dire, mademoiselle. Et puisque vous refusez de me comprendre à demi-mot, j'ajouterai qu'Arsène Lupin a trouvé ici, pour l'accomplissement de ses projets, une amie, plus qu'une amie, une complice aveugle et passionnément dévouée.
Elle se leva et, sans émotion, ou du moins avec si peu d'émotion que Sholmès fut frappé d'une telle maîtrise, elle déclara
« J'ignore le but de votre conduite, monsieur, et je veux l'ignorer. Je vous prie donc de ne pas ajouter un mot et de sortir d'ici.
Je n'ai jamais eu l'intention de vous imposer ma présence indéfiniment, » répondit Sholmès, aussi paisible qu'elle. « Seulement, j'ai résolu de ne pas sortir seul de cet hôtel. »
« Et qui donc vous accompagnera, monsieur ?»«
Vous !»«
Moi ?»«
Oui, mademoiselle, nous sortirons ensemble de cet hôtel, et vous me suivrez, sans une protestation, sans un mot. »
Ce qu'il y avait d'étrange dans cette scène, c'était le calme absolu des deux adversaires. Plutôt qu'un duel implacable entre deux volontés puissantes, on eût dit, à leur attitude, au ton de leur voix, le débat courtois de deux personnes qui ne sont pas du même avis. Dans la rotonde, par la baie grande ouverte, on apercevait M. Destange qui maniait ses livres avec des gestes mesurés. Clotilde se rassit en haussant légèrement les épaules. Herlock tira sa montre.
« Il est 10h30. Dans 5 minutes, nous partons.
Sinon ?»«
Sinon ?» Je vais trouver M. Destange et je lui raconte...
Quoi ?
La vérité. Je lui raconte la vie mensongère de Maxime Bermond et je lui raconte la double vie de sa complice.
De sa complice ?
Oui, de celle que l'on appelle la dame blonde, de celle qui fut blonde.
Et quelle preuve lui donnerez-vous ?
Je l'emmènerai rue Charles Grin. Et je lui montrerai le passage qu'Arsène Lupin, profitant des travaux dont il avait la direction, a fait pratiquer par ses hommes entre le 40 et le 42, le passage qui vous a servi à tous les deux l'avant-dernière nuit.
Après ?
Après, j'emmènerai M. Destange chez Maître de Tinon. Nous descendrons l'escalier de service par lequel vous êtes descendu avec Arsène Lupin pour échapper à Ganimard. Et nous chercherons tous deux la communication sans doute analogue qui existe avec la maison voisine, maison dont la sortie donne sur le boulevard des Batignolles et non sur la rue Clapeyron.
Après ?
Après, j'emmènerai M. Destange au château de Crozon. Et il lui sera facile, à lui qui sait le genre de travaux exécutés par Arsène Lupin lors de la restauration de ce château, de découvrir les passages secrets qu'Arsène Lupin a fait pratiquer par ses hommes. Il constatera que ces passages ont permis à la dame blonde de s'introduire la nuit dans la chambre de la comtesse et d'y prendre sous la cheminée le diamant bleu. Puis, 2 semaines plus tard, de s'introduire dans la chambre du conseiller Blaise Chêne et de cacher ce diamant bleu au fond d'un flacon. Acte assez bizarre, je l'avoue, Petite vengeance de femme, peut-être. Je ne sais. Cela n'importe point.
Après ?
Après, fit Herlock d'une voix plus grave, j'emmènerai Monsieur d'Estonge au 134 avenue Henri Martin. Et nous chercherons comment le baron d'Autrec...
Taisez-vous, taisez-vous,
balbutia la jeune fille avec un effroi soudain.
Je vous défends. Alors vous osez dire que c'est moi? Vous m'accusez?
Je vous accuse d'avoir tué le baron d'Autrec.
Non, non, c'est une infamie.
Vous avez tué le baron d'Autrec, mademoiselle. Vous étiez entrée à son service sous le nom d'Antoinette Brea, dans le but de lui ravir le diamant bleu. Et vous l'avez tué.
De nouveau, elle murmura, brisée, réduite à la prière. Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie. Puisque vous savez tant de choses, vous devez savoir que je n'ai pas assassiné le baron.
Je n'ai pas dit que vous l'aviez assassiné, mademoiselle. Le baron d'Autrec était sujet à des accès de folie que seule la sœur Auguste pouvait maîtriser. Je tiens ce détail d'elle-même. En l'absence de cette personne, il a dû se jeter sur vous, et c'est au cours de la lutte pour défendre votre vie que vous l'avez frappé. Épouvanté par un tel acte, vous avez sonné et vous vous êtes enfui sans même arracher du doigt de votre victime ce diamant bleu que vous étiez venu prendre. Un instant après, vous rameniez un des complices de Lupin, domestique dans la maison voisine, vous transportiez le baron sur son lit, vous remettiez la chambre en ordre, mais toujours sans oser prendre le diamant bleu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je le répète, vous n'avez pas assassiné le baron. Cependant, ce sont bien vos mains qui l'ont frappé.
Elle les avait croisées sur son front, ses longues mains fines et pâles, et elle les garda longtemps ainsi, immobiles. Enfin, déliant ses doigts, elle découvrit son visage douloureux et prononça « Et c'est tout cela que vous avez l'intention de dire à mon père ?»«
Oui. Et je lui dirai que j'ai comme témoin Mademoiselle Gerbois, qui reconnaîtra la dame blonde, la sœur Auguste, qui reconnaîtra Antoinette Brea, la comtesse de Crozon, qui reconnaîtra Madame de Réal. Voilà ce que je lui dirai. »
Vous n'oserez pas, dit-elle, recouvrant son sang-froid devant la menace d'un péril immédiat. Il se leva et fit un pas vers la bibliothèque. Clotilde l'arrêta. Un instant, monsieur. Elle réfléchit, maîtresse d'elle-même maintenant, et fort calme lui demanda « Vous êtes Herlock Sholmès, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
Que voulez-vous de moi ?
Ce que je veux. J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel dont il faut que je saute vainqueur. Dans l'attente d'un dénouement qui ne saurait tarder beaucoup, j'estime qu'un otage aussi précieux que vous me donne sur mon adversaire un avantage considérable. Donc, vous me suivrez, mademoiselle. Je vous confierai à quelqu'un de mes amis. Dès que mon but sera atteint, vous serez libre.
C'est tout ?
C'est tout. Je ne fais pas partie de la police de votre pays, et je ne me sens par conséquent aucun droit de justicier. Elle semblait résolue. Cependant, elle exigea encore un moment de répit. Ses yeux se fermèrent, et Sholmès la regardait, si tranquille soudain, presque indifférente au danger qui l'entourait. « Et même, songeait l'anglais, se croit-elle en danger ? Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. Lupin est tout puissant. Lupin est infaillible.
« Mademoiselle, dit-il,
J'ai parlé de 5 minutes. Il y en a plus de 30.
Me permettez-vous de monter dans ma chambre, monsieur, et d'y prendre mes affaires?
Si vous le désirez, mademoiselle, j'irai vous attendre rue Montchanin. Je suis un excellent ami du concierge Janniot.
Ah, vous savez,
fit-elle avec un effroi visible. Je sais bien des choses.
Soit. Je sonnerai donc.
On lui apporta son chapeau et son vêtement, et Sholmès lui dit
« Il faut que vous donniez à Monsieur d'Estonge une raison qui explique notre départ, et que cette raison puisse, au besoin, expliquer votre absence pendant quelques jours.
C'est inutile. Je serai ici tantôt. »
De nouveau, ils se défièrent du regard, ironiques tous deux et souriants.
« Comme vous êtes sûr de lui, »
dit Sholmès. « Aveuglément. »